Hachem, nous allons continuer et développer le thème dans lequel nous avons déjà commencé la fois dernière, puisque nous avançons avec le temps dans lequel nous vivons. Il est très important de respecter le temps, car le temps nous donne des indications, et ceux qui sont liés à la notion de temps, car toute la création du monde, l'une des facettes de la création, c'est l'expression du temps. Savoir le temps, connaître le temps, écouter les informations que le temps nous dit, ça nous fait changer et avancer dans notre vie selon la période dans laquelle nous vivons. C'est vrai au niveau de l'année, et c'est aussi vrai au niveau de la génération. La génération d'aujourd'hui doit entendre un message qui correspond à ce qu'elle est. Même si le message de la Torah est toujours un message unique, il a le devoir de s'habiller selon les générations et prendre le vêtement qui correspond à la génération. Si je parle toujours le même message de Torah, à différents niveaux, je dois m'adapter au niveau auquel je suis placé, face auquel je fais face, pour que le langage du divin parle et se dévoile d'une manière concrète, réelle, avec les vêtements correspondants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous avons dit que le mois de Hadar, puisque nous parlons de l'importance du temps, le mois de Hadar nous donne une indication très très importante. Ce mois est lié à la capacité de vêtir les choses, c'est-à-dire le secret des vêtements. En hébreu, sod halevushim, et tout ce que représente la notion de vêtement, malbouche. Dans la Kabbalah, dans le sens un petit peu plus profond de la Torah, on dit que malbouche a la même valeur numérique que chashmal. Qu'est-ce que ça vient nous indiquer? Chashmal qui veut dire, dans le langage moderne, électricité, mais qui est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus secret que cette notion, car l'électricité, pour ceux qui en ont fait un petit peu dans leur vie ou qui étudient le sens de ce qui se passe en électricité, savent que le courant alternatif, celui que vous avez ici, est un courant qui s'appelle alternatif parce qu'il est justement alternatif. Il alterne entre l'existence et le manque. Je veux dire que si vous placez une sinusoïde, un écran, ordinateur, sur un système électrique, l'écran va vous donner l'image suivante, un trait qui représente le zéro, et une sinusoïde qui est comme celle-ci, où lorsque nous sommes au sommet de la sinusoïde, nous sommes dans le plus, dans l'éclairage. Et lorsque nous sommes dans le zéro, nous éteignons entre guillemets, et dans le moins. C'est-à-dire qu'il y a un plus, moins, zéro, plus, zéro, moins, plus, zéro, moins. Autrement dit, de temps en temps, la lumière éclaire, de temps en temps, elle n'éclaire pas. Seulement, comme la rapidité, la vitesse de ces manques et de ces lumières sont rapprochées, nous voyons un courant comme s'il était continu, alors qu'il est alternatif. Pourquoi tout ce... On n'est pas en train d'étudier l'électricité. Tout simplement parce qu'en hébreu, se taire se dit hash, et parler se dit mal. Ça veut dire que hashmal, l'électricité, c'est se taire et parler, se taire et parler, se taire et parler. Moralité, la lumière électrique n'est ni plus ni moins que ce courant sinusoïde. 0, 1, 0, 1, ou plus 0, comme vous voulez. Et pourquoi il est de cette manière-là? Car il a la capacité de s'habiller. C'est-à-dire que pour avoir un courant, il faut que je crée un ustensile capable de recevoir le courant qui se trouve dans l'univers. Dans l'univers, il y a des milliards d'électricité. Mais comment se fait-il que cette électricité est captée dans une lampe électrique? Tout simplement parce que nous avons eu, entre le plus Vous allez vraiment croire que c'est un cours électrique. Et le moins, un cours de physique, vous avez ici l'ampoule. Entre le plus et le moins, vous avez un filament. Vous avez deux fils qui sortent. Et quand vous regardez votre filament, si le filament est coupé, vous savez que la lampe ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce filament, en fait, c'est le vêtement qui permet au plus de passer au moins. Sans ce vêtement, le plus ne peut pas passer au moins. Il passe au moins, mais le passage est tellement fort qu'il y a, en fait, ketzer, en hébreu, court-circuit. Le circuit est trop court. Il faut que le circuit passe par une contradiction. Si le circuit ne passe pas par une contradiction, la lumière ne peut pas éclairer. Comment ça s'appelle justement? En français, ça s'appelle filament, mais en hébreu, c'est très intelligent. On appelle ce filament nagad. Résistance. Donc, contre. Neged. Okay? Qui a donné donc la résistance. Autrement dit, il y a quelque chose de très intéressant. Je peux recevoir de la lumière quand je résiste à la lumière. Autrement dit, j'emploie maintenant des termes de Torah. Tant que je n'ai pas un libre arbitre de résister et même de refuser, je ne peux pas recevoir. Moralité, la lumière de Dieu, maintenant nous passons de l'électricité telle que nous la voyons, il y a une lumière divine dans l'imitation. Okay? La fade imitation n'est que la lumière électrique. Nous parlons ici d'une lumière divine. Pour que je reçoive la lumière divine, si, entre guillemets, lui est le plus et moi le moins, entre nous, il faut qu'il y ait une résistance. Il faut que je puisse résister. Et le secret dit que si je veux recevoir 100 degrés, je dois avoir une résistance de 100. C'est-à-dire autant de résistance que la lumière que je veux recevoir. C'est facile, ça va, c'est clair. C'est-à-dire que tant que j'ai la capacité de refuser la chose, j'ai aussi la capacité de la recevoir. Or, la malchoute, la royauté de Dieu, on ne peut la recevoir que si nous l'avons choisie. En hébreu, ou malchuto beratzon kiblu alehim. Si je veux, je peux recevoir. Moralité, je peux ne pas vouloir. Mais ça respecte. Et la force, c'est le secret de toute cette résistance. La Kabbalah est basé sur ce petit schéma que je viens de vous faire ici, la capacité à recevoir, d'où le terme de Kabbalah, comment recevoir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui est capable d'entendre ce message, parce que nous savons de plus en plus tous les systèmes scientifiques, chimiques, électriques, et beaucoup plus fins encore, et le monde est prêt, même au niveau de l'extériorité des phénomènes, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois en hébreu, « Mi besari echeze eloha ». De mon corps, de ma chair, je peux voir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Des phénomènes qui sont dans mon corps, je peux savoir comment ça se passe au niveau de mon esprit, et de mon âme, et beaucoup plus haut encore. Ce qui fait que, par exemple, un petit exemple de la paracha de la semaine, quand Moshe Rabbeinu nous demande à Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de faire un mishkan, un sanctuaire, mais je ne sais pas comment le faire. Dieu lui dit, regarde ton corps et fais la même chose. Le mishkan, le tabernacle, c'est ni plus ni moins que le corps humain un petit peu plus grand. La même fonction, le même fonctionnement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'était le shiur d'hier, Shabbat. Mais par exemple, au niveau du cerveau, nous avons les deux chérubins, avec les ailes, donc le cerveau droit et le cerveau gauche, et la puissance divine qui passe entre les deux, comme la parole divine qui sortait entre les deux chérubins dans le Saint des Saints. Ici, c'est mon Saint des Saints. Les deux chérubins sont posés sur mon cœur, c'est-à-dire sur la boîte dans laquelle il y avait la Torah. Donc il y a un grand secret, et de là-bas sort l'énergie, et va éclairer la menorah qui va nous donner la lumière dans notre monde, un petit peu plus dehors, parce que pas tout le monde peut rentrer dedans. Et en face d'elle, il y a la table de préposition avec les 12 pains, c'est-à-dire que de l'intériorité du Kodesh, il me sort une énergie qui va être capable de me donner une lumière, une sagesse, et en face d'elle aussi une capacité à manger. donc la table, le monde beaucoup plus matériel. Et si je sors un tout petit peu plus loin, je descends des escaliers, et je suis en train de vous décrire le temps, on est en train de sortir de l'intérieur vers l'extérieur, et ça va arriver jusqu'à notre vie dans le monde matériel dans lequel nous vivons, jusqu'à la matrice de tous les actes que je peux faire, qui sont au chiffre de 39, parce que pour construire le temple, il faut 39 travaux. Moralité, tout ce que je fais ici est issu du Saint des Saints. Et tout doucement sort de l'intérieur vers l'extérieur. En hébreu, ça porte un mot, un nom, un terme, une définition. Emouna. Emouna veut dire l'expression du dedans dans le dehors. C'est ça la Emouna. C'est ni la foi ni rien d'autre. C'est l'expression, c'est le vécu du dedans vers le dehors. C'est la cristallisation du divin dans mes actes, dans ma vie. Donc, anima ami, ce n'est pas je crois, mais je suis dans la certitude. Vous comprenez bien que ça change tout. Anima ami be'emuna shlema be'biyat ha-mashiach. Je ne sais pas, j'ai foi dans la venue messianique, rien dans la venue du Mashiach. C'est que je suis dans la certitude, je vis, je fabrique la venue messianique. J'attends pas. Je suis actif dans cette attente. Ce n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas une promesse qui reste dans l'espace. Un jour, si Dieu veut, elle va arriver. Non, je fabrique. Je prends mon billet d'avion, je viens vivre en Israël, par exemple. Je ne reste pas habiter à Paris ou à Amsterdam. C'est-à-dire que je participe à la propre Géoula du peuple. Tout ceci pour arriver tout doucement au secret du mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est un vêtement. Tout le mois est appelé vêtement. En hébreu, Aderet. Aderet est une tunique. C'est-à-dire c'est le mois de la tunique. Je traduis textuellement, sans rien rajouter. Donc le mois de Hadar est un beau vêtement. Qui dévoile quoi? Le divin. On a dit que sans vêtement, sans résistance, le vêtement est aussi un écran. Je ne peux pas révéler le divin. Donc il y a un grand secret qui se cache même dans le terme de ce mois-ci, qui est comme tous les termes des mois, comme tous les noms des mois, est monté de Babylone. C'est-à-dire on est monté de Babylonie, de l'exil de Babel, avec les noms des mois, bien entendu, qui chacun d'entre eux cache un secret de ce qu'il va représenter. Vous savez que dans le divin, qui est en fait la vie, en hébreu se dit Shem Havaya, qui se traduit mauvaise traduction, comme toutes les traductions malheureusement, traduction égale trahison, le nom de Dieu. C'est pas grave, on va faire avec, mais en réalité ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom de l'existence. Shem Havaya, Lihiot, être. Donc le nom de l'être. Et ce nom-là peut apparaître de différentes combinaisons. Chaque mois, la combinaison du nom change. Autrement dit, vous avez l'habitude, je l'écris un petit peu en français avec des H pour ne pas avoir un problème d'effacer. On n'a pas le droit d'effacer ce nom. Donc vous avez le tétragramme, Yutke Bavke. Et chaque mois, il va permuter. Il y a des mois où on va changer le Hey, on va le mettre au début, après on va mettre le Yud ici. Et le Vav et le He vont rester, et ainsi de suite. Vous avez des permutations, 12 permutations, qui correspondent donc en fait aux 12 mois d'année. Alors qu'il y a ici 24 possibilités, puisque nous avons 4 lettres, donc 4 fois 3, 12 fois 2, 24, fois 1, 24. Mais comme nous avons 2 lettres He, c'est divisé par 2, donc nous n'avons que 12 permutations possibles. Quel est le nom de Dieu, de l'existence, de l'être, qui apparaît le mois de Hadar? Alors, le nom est très intelligent, il est comme ça. C'est-à-dire, les deux lettres He au début, et après nous avons les deux lettres Yud et Vav, qui nous indiquent quelque chose de très important. D'où ça sort ces noms, ces permutations, je ne vais pas rentrer maintenant, c'est un cours tout entier, avec des versets qui sortent de la Torah, qui nous donnent la combinaison de chaque mois. Mais les kabbalistes prennent au sérieux, toutes les permutations des mois. D'ailleurs, l'Arizal dit quelque chose d'incroyable qui fait assez trembler. Celui qui ne fait pas la kavana dans le moussav de Rosh Chodesh, de la permutation qui correspond au mois, il appelle Dieu et Dieu ne répond pas. Autrement dit, il y a ici quelque chose de très sérieux dans cette permutation. Je ne reste pas au ras des pâquerettes. Ça ne veut pas dire qu'il appelle et Dieu ne répond pas. Ça veut dire que tu ne sais pas avec quelle clé ouvrir les portes. Alors, le Sha'are Ora, okay, Rabbi Yosef Jikatilia, Alav Shalom, dit par exemple que certaines personnes veulent des vêtements et ouvrent avec une clé où il y a des pommes de terre. Okay, il donne cette expression, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle clé ouvre quelle porte. Et nous parlons ici de clés. Il y a des clés dans le jardin. Et celui qui connaît les clés a plus de capacité, de facilité à aller ouvrir avec la bonne clé la bonne porte. Je reviens. Le mois de Hadar, donc, nous donne cette permutation, ce nom-là. Vous voyez que c'est le même nom, mais avec les lettres différentes placées. Les deux lettres He représentent des lettres féminines. Qui dit féminin dans la Kabbalah ne veut pas dire femme, veut dire vêtement, capacité à dévoiler, habillage. La femme, entre guillemets, est le vêtement de l'homme. C'est pour ça que dans un mariage chassidi ou kabbalique, la femme tourne autour de l'homme cette fois pour lui dire « Je suis en train de t'entourer de sept couches de vêtements, car toi, l'homme, par rapport à moi, tu seras l'âme et moi, je serai ton corps. » Donc, moi, je vais révéler, la femme qui parle, ce que toi, l'homme, tu vas donner comme énergie. Donc, nous avons un couple ici très fort entre la femme qui va jouer le rôle du vêtement, du révélateur, de ce que représente l'énergie masculine. Dans les lettres du nom de Dieu, c'est exactement le même phénomène. Sans entrer dans trop de détails, les deux lettres He sont des lettres féminines. Vous aviez compris que les deux lettres Yud et Vav sont des lettres masculines. On les voit, elles n'ont pas de volume, pas parce qu'ils sont moins gros, parce que tout simplement, les lettres masculines sont un potentiel. Le premier potentiel, c'est un point. Un point est infini, il n'a pas encore de forme. Avec un point, je peux tracer ce que je veux. Donc la lettre Yud, c'est un point. Moralité, tant que ce point-là, même s'il est un petit peu dirigé vers une certaine direction, il n'est encore que limité. Mais lorsqu'il prend un volume, la lettre He, c'est un volume. C'est en fait les X, les Y et le point dans l'espace. Okay? Dans l'axe de toute construction. Ça veut dire que la lettre He est formée ici de largeur, de hauteur et de profondeur. Ce qui fait qu'en réalité, la lettre He est un cube dans laquelle se cache la lettre Yud. La lettre Yud va donner une vie et la lettre He, qui est le cube, va donner un volume à la vie. Je reviens. Qui dit volume, dit vêtement. Qui dit vêtement, dit féminité. Qui dit féminité, dit Ève, Chava. Chava et Adam. C'est une seule force. Mais Chava est le vêtement et Adam est la Neshama. Quand on dit que Ève a fauté avec le serpent, c'est pas la femme qui a fauté, c'est la partie corporelle de l'homme. C'est la partie vêtement de l'homme qui a été perturbée. Moralité, le serpent attaque les vêtements. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les deux lettres féminines sont là, au début. Vous remarquerez bien que dans un mois, il y a 4 semaines. S'il y a 4 semaines, il y a 4 lettres. Moralité, chaque semaine correspond à une lettre. Nous sommes, Be'ezrat Hashem, on va commencer Rosh Chodesh, vendredi, samedi prochain, donc jeudi soir. Pendant les 2 premières semaines, on sera tous dans le féminin, c'est-à-dire dans la fabrication des vêtements, jusqu'au soir de Pourim. Le soir de Pourim va apparaître, en fait, qu'est-ce qui va apparaître ? La lumière du masculin, c'est-à-dire Dieu, dont son essence va descendre, va s'habiller. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il va apparaître où ? Il va apparaître tout simplement dans les vêtements qui ont été fabriqués. Si je veux faire descendre le nom de Dieu dans ce monde et qu'il n'a pas où se placer, okay, alors c'est une vapeur, c'est une énergie, c'est une pensée. On ne veut pas laisser, entre guillemets, la lumière divine vaporeuse. Ce n'est pas virtuel, c'est réel. Pour que ce soit réel, il faut fabriquer des vêtements. Donc nous avons 2 semaines de fabrication de vêtements et 2 semaines de révélation de la lumière dans ces vêtements. C'est très très important. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Nous allons donner encore d'autres... des synonymes. D'autres synonymes. Okay? Vêtements, donc féminité, et un mot que vous connaissez tous, midot. On vous dit tous qu'il faut faire le tikkun hamidot, la réparation de nos vertus. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en français. Les attributs. En hébreu, c'est beaucoup plus simple. C'est la correction de nos mesures. Or, en hébreu, mida vient de quelle racine? Madin. C'est-à-dire un uniforme. Moralité, quand je fabrique un uniforme, je fabrique mes mesures. D'ailleurs, il doit être à ma mesure, sinon je marche comme un clown. Donc mes vêtements doivent être à ma mesure. Ce qui, au niveau spirituel, est très intelligent. Je ne peux pas recevoir une lumière qui est plus grande que la capacité que j'ai à la recevoir, sinon je brûle. Exactement comme dans la lampe. Je ne veux pas faire de court-circuit dans ma vie. Et la Géoula, je ne peux pas la recevoir immédiatement. Elle est dangereuse. C'est le secret de la Kippa Sruga. Pourquoi? Parce que pour la fabriquer, il faut beaucoup de temps. Elle est circulaire et elle est en fait au niveau de la spirale. Elle monte petit à petit et elle mélange des couleurs, un coup blanc, un coup vert, un coup noir, un coup bleu. C'est pas quelque chose que tu viens prendre et tu colles 4 morceaux et tu as une kippa miraculeuse immédiatement. Je ne rigole pas. Et en plus de ça, elle a des trous. C'est-à-dire qu'entre les moments où tu la fabriques, il y a des pleins et des vides. En réalité, c'est notre vie. C'est le tahalir. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué immédiatement, où tu colles 4 morceaux et tu as une geoula miraculeuse. Tiens, une kippa. Il y a un grand secret là-dedans. Ne croyez pas que je suis contre d'autres kippotes, okay? Mais j'aime bien la mienne. Il faut réfléchir, hein?
Okay? L'image est belle.
L'image est belle. Donc les vertus, les mesures, sont des femmes qui précèdent à la capacité à recevoir. C'est très simple, le monde est fabriqué de cette manière-là. Tu veux recevoir quelque chose dans ta vie? Dans tous les domaines, présente une capacité, un contenant. C'est tout. Si ton contenant n'est pas bon, tu ne recevras rien. Et tous les gens qui ne reçoivent pas, dans quelque domaine que ce soit, c'est parce que leur contenant pour ce domaine-là ne correspond pas à ce qu'ils veulent recevoir. C'est tout. Je ne peux pas maintenant prendre un verre en papier et remplir du thé chaud dans un verre en papier. Il y a tout qui part et c'est fini. Et ça, c'est le secret de notre vie. Et ce secret-là, quand par hasard, il vient se placer, se cacher dans le mois de Hadar. Car le mois de Hadar, comme nous l'avons dit la fois dernière, il associe l'unité divine, le Aleph, qui trouve une maison, dira. Donc le Aleph trouve une dar, comme en arabe, okay? Une maison. Pour le dévoiler. Et ça, c'est un grand, grand secret. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il a combien de mesures? Combien de jours dans la semaine? 7. Donc notre monde, il est toujours fabriqué de 7 mesures. Okay? Au niveau du son, au niveau de l'espace, au niveau du temps. Okay? Nous avons 7 jours, nous avons 7 notes dans la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et vous reconnaissez une gamme. Tout est basé sur le chiffre 7. Car en hébreu, Sheva, la lettre Shin, est aussi se marie avec la lettre Tet. Donc Sheva égale Teva. La nature et le 7 vont de pair. C'est un titre de livre. Si tu en... Donc en réalité, le Dar, qui est la maison, est en valeur numérique 204. 204, c'est la force du 6. C'est toutes les directions dans ce monde. Et le Aleph, qui est l'unité divine, qui va descendre, s'habiller dans le 6 et qui va fabriquer le 7, ce qu'est le Shabbat. Donc nous avons ici toute la force, la puissance du mariage entre les mondes. Monde de l'esprit, monde du corps, masculin, féminin. Le ciel et la terre. La lumière et l'ombre. Et ainsi de suite, vous pouvez faire jusqu'à demain matin des correspondances. Et toute la simcha. Car le mois de Hadar est basé, fabriqué sur la simcha. Mishenichnas Hadar marbin besimcha. Nous avons la mitzvah d'augmenter, de multiplier la simcha dès que le mois de Hadar rentre. Je vous pose la question, pourquoi il y a de la simcha? Maintenant, c'est simple. Toute simcha sort du fait que tu as reçu la lumière. Mais pas gratuitement. Tu as été capable de fabriquer des vêtements pour la recevoir. Donc, comme tu es associé à la fabrication des ustensiles, des contenants, ta simcha va se multiplier. À tel point que le Rambam dit dans les Hilchot Megillah, Kol sifrei haneviim ve kol haktuvim atidim libatel limot hamashiach. Tous les livres des neviim et des ktuvim vont disparaître au temps messianique. Chutz mi Megillat Esther, sauf la Megillat Esther. Et donc il faut investir dans des Megillot Esther, c'est tout ce qu'il faut acheter. Harei kayemet kechamisha chumshet Torah. Elle va rester comme la Torah. J'ai pas parlé de la Torah, j'ai parlé des Nevim et des Ktuvim. Okay? Tout va disparaître, sauf la Torah. Donc il va y avoir Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Barim, Megillat Esther. Vekeilchot Torah shebealpe sheinan betelim leolam. Et jamais ça ne disparaîtra. D'où on sait ça? C'est marqué dans la Megillah elle-même, Esther. Traduction, ces jours-là de Pourim ne disparaîtront jamais, elles resteront, ces énergies de Pourim, dans toutes les générations, dans toute la semence d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que Pourim, c'est pas un petit jour de déguisement et d'enfants qui se baladent et qui rigolent, où on fait Faites attention. Et même le jour de Yom HaKippourim, c'est une imitation, dit le Zohar. Qu'est Pourim? Comme Pourim. La référence est Pourim. Katan nitle bagadol. Le petit s'attrape au grand. Qu'est Pourim? C'est-à-dire quand le jour de Kippour regarde Pourim, il le regarde comme ça. Imaginez-vous, nous on a placé Kippour ici, et Pourim, c'est exactement l'inverse. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand la chose est importante, le Yetzer Hara travaille des heures supplémentaires pour rendre le tout ridicule. Petit mesquin. Tu vas transformer toute la fête en petit déguisement de sorcière. Et tu vas te croire, c'est fini, tu as gagné la fête. Okay? C'est ça le travail. Il faut faire très très attention, nous avons un jour très important. Un jour de quoi? Qu'est-ce que c'est le jour de Pourim? C'est un jour de guerre. Le mois de Hadar, on doit sortir en guerre. Bizarre, non? Ça vous rappelle quelque chose? Okay. Le mois de Hadar vient de la racine Adir, puissance, Eder. C'est une force, une puissance. Ça veut dire que le meilleur mois pour Israël, pour commencer à nettoyer le terrain, c'est Hadar. Ça veut dire qu'il y a ici une puissance qui gêne d'ailleurs toutes les nations du monde. Jamais vous verrez une accusation du sens vers Israël. Mais dès qu'Israël se défend, il y a immédiatement accusation du monde entier. Toujours comme ça. Okay? Mais ça fait du bien. J'aime ce genre d'accusation. Je préfère ce genre d'accusation. Ça veut dire que la brebis a sorti une mitraillette et elle se défend. Contre 70 loups. Ok. Chaque fête, vous l'avez compris un petit peu en filigrane, amène avec elle une clipa, une écorce, un embêtement, une structure qui vient contrer. Et zel ou mazer sa Elohim. Tout ce que Dieu a fait, il a fait en face l'antithèse. Pour justement nous donner la force de nous dévoiler. Si je fais un combat contre un ennemi qui n'a pas ma hauteur. Donc, à Pourim va correspondre un ennemi aussi fort que Pourim. Il s'appelle Amalek. Qu'est-ce que c'est Amalek? Toute force qui veut annuler notre royauté, notre royaume sur cette terre. C'est facile. J'ai le devoir donc d'effacer de la planète tout celui qui veut m'effacer. Ne pas dialoguer, ne pas parler. J'ai une mitzvah de sortir en guerre, limchot. J'ai dit effacer parce que c'est le terme que la Torah nous indique. Limchot et zecher amalek. Et chaque juif doit venir au Beth Knesset pour écouter ce petit passage qu'on doit lire à la veille de Pourim. Zachor et Asher asa alecha amalek baderech betzetchem mimitzrayim asher ekarcha baderech vayzanet becha et kol hadekashalim achareicha vata aye veyagea velo yereh Elohim vayah beaniach Hashem Elohech alecha mikol oydecha misaviv timche et zecher amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Tout ça, il faut le connaître, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Et nous avons une mitzvah chaque jour, parmi 10 choses à nous rappeler, à cette chose-là. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi Israël numéro 1. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vous ai dit tout à l'heure que toute l'importance était dans la fabrication des vêtements. Donc qu'est-ce que c'est Amalek? C'est quelqu'un qui déshabille. C'est quelqu'un qui empêche la fabrication des vêtements. Les juifs sont toujours dans le schmates. Okay? C'est des fabricants de vêtements. Mais pas par hasard. Il y a dans la fabrication des vêtements une capacité à unir des morceaux pour faire un ensemble. Quand vous allez chez un tailleur, au départ, vous ne comprenez rien. Tout est coupant, tout est coupé. Et celui qui ne comprend pas, il se dit « Pourquoi tu fais toutes ces xérotes ?» On dit « Mais attends, je vais fabriquer un vêtement de toutes ces xérotes, comme tu les appelles. » C'est notre histoire. Ça veut dire que Amalek est là pour une seule chose, empêcher la lumière de trouver un contenant. Donc il va attaquer les contenants de cette lumière. Il va empêcher le peuple d'Israël d'arranger ses mesures. Et le mois où il va prendre toute sa puissance, c'est le mois où nous sommes le plus capables de nous fabriquer des vêtements. Justement. Puisque nous sommes dans le mois des vêtements, Amalek va être de plus en plus dur avec nous, présent, dangereux. Donc il va empêcher à tout prix la lumière d'arriver dans les contenants. Et donc, c'est le texte que je viens de vous lire tout à l'heure. Zachor et Asher Asalecha Amalek, Baderech. En route. En route de quoi? C'est pas en route de l'Égypte à Eretz Israël seulement. C'est vrai. Mais je veux que vous le compreniez un petit peu plus au niveau profond. Où se trouve l'Égypte et où se trouve Eretz Israël? Qui est haut, qui est bas? L'Égypte est en bas et l'Eretz Israël est en haut? Non, c'est exactement l'inverse. L'Égypte est en haut et Eretz Israël est en bas. Pourquoi? Parce que l'Égypte, justement, c'est la pensée qui n'est pas encore habillée. Comme dans le cerveau humain. L'Égypte, c'est la pensée. Eretz Israël, c'est quoi? C'est la vie, c'est l'action. Moralité. Sortir d'Égypte, c'est tout simplement sortir de la pensée et aller vers l'action. Si en chemin, quelqu'un vient te refroidir, Asher Karchabaderer, qui t'a refroidi en route, tu vas rester toute ta vie un juif virtuel. Un juif de l'espace, un juif du mont Sinaï, un juif de la Torah, déconnecté de sa terre et de sa vie. un juif d'une feuille de Gemara et pas un juif qui vit sur sa terre. Lorsque tu es un juif de cette manière-là, le goy t'aime. Il t'adore. Tu peux rester dans ta yeshiva, tu ne gênes personne. Quand est-ce qu'on commence à gêner? Quand on veut revenir sur notre terre, c'est-à-dire réintégrer notre vêtement collectif, Eretz Israël. Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un arbre, tout ce qu'il avait à faire, haut de 50 coudées, pour pendre Mordechai. D'accord? Etz gavoa chamishim ama veitlu et Mordechai alav. Qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? Tout simplement, il veut mettre Mordechai où? Le ramener en haut. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50? C'est le chiffre qui est au-delà de notre monde. Entre guillemets, il veut envoyer ce Haman Arasha, Mordechai, dans le Olam Abba. Tu peux être un bon juif là-bas, tu gênes personne, mais ne sois pas un juif qui descend dans le Olam Azé. Ça me gêne. Donc je vais fabriquer un arbre qui est haut de cette mesure-là. C'est pour ça que la Megillat Esther est codée. Il faut la dévoiler. De fabriquer un arbre aussi haut qui va faire hisser Mordechai et qui va le pendre là-bas pour surtout pas que le juif se révèle tel qu'il doit se révéler dans la vie. Qu'il soit au niveau de la pensée, qu'il gère des petits trucs et des petits machins, qu'il fasse des prêts de banque, ça m'intéresse. Mais qu'un juif descende sur sa terre, qu'il fabrique des nouveaux hommes qui ont des muscles, qui savent se battre, des soldats d'Israël, ça c'est une angoisse pour Amalek. On ne peut pas supporter. On préfère le petit juif maigre, chétif, blanc, qui rase les murs, en Pologne. On n'aime pas l'homme Jabbar qui a un pistolet en lui avec 16 balles. Okay? Ça c'est exactement l'antithèse. Donc qu'est-ce que je dois faire? Exactement ça. Redevenir le juif Israël qui est capable de revenir dans son vêtement et de vivre sa vie ici. Pas déconnecté, pas coupé de la vie. Pas dans une petite yeshiva, même dans une grande yeshiva, le Mont Sinaï, avec le grand Rav. Moshe Rabbeinu, non. Même Moshe Rabbeinu, il a fermé la yeshiva, il dit ça suffit, j'en ai marre. Rav lachem shevet baharazé, ça suffit, on rentre. Qu'est-ce qu'on rentre? On est dans la yeshiva, on n'a pas besoin de travailler, on a des vêtements qui poussent avec nous. Nos enfants n'ont pas besoin d'éducation, on a des écoles extraordinaires, on n'a même pas besoin de travailler, on a la parnassa qui vient du ciel, la manne. Le puits de Myriam nous suit. Qu'est-ce que tu veux nous amener où? Nous, ou Soulachem? Non, non, vous rentrez en Eretz Israël. Mais là-bas, on ne peut pas étudier la Torah. Il va falloir commencer à planter des arbres. Nahon. Mais c'est là-bas où vous vivez. C'est là où vous vous plantez. Exactement l'inverse. Tant que tu es dans l'air, tu n'es pas encore dans la terre. Et c'est pour ça qu'Eretz Israël s'appelle Eretz. Parce que justement, elle est dans le désir de recevoir. Eretz, c'est féminin. Donc on a besoin de cette partie féminine du peuple. La terre. Je vous rappelle un petit peu l'historique de l'histoire. On est juste sur le point des 70 années d'exil qui se terminent pour entrer où? En Israël. Et c'est là-bas, dans la charnière, qu'on veut nous empêcher de rentrer en Eretz Israël. Et donc, Haman, qui lui est de la racine de Amalek, Haman Ha'agagi, Agagi le roi de Amalek, vient nous empêcher, comme tous les Amalek de toutes les générations, qui nous empêchent d'une seule chose, de rentrer habiter chez nous, sur notre terre. Il y a des gens d'ailleurs qui travaillent pour Amalek. Ils continuent à fabriquer, à ouvrir des écoles, en dehors des Israël. Ce sont des sochnim de Amalek. Au lieu de venir donner la force à leur terre, à leur puissance, ici, continuent là-bas à maintenir un exil qui est en train de mourir, avec 70 et 80% de mariages mixtes, qui est en train de mourir tranquillement, en Chas v'Shalom, au lieu de sauver les enfants, les derniers qui restent. Moralité. Nous devons exactement comprendre le secret de cette fête. Ce C'est une fête sérieuse. Même si on rit beaucoup à Pourim, et il faut rire, mais c'est une fête très sérieuse. D'ailleurs, sérieux ne veut pas dire faire la gueule. On peut être très très sérieux en ayant des sourires. C'est ça le juif d'ailleurs. Il ne faut pas rencontrer des juifs qui ont fait tchouba. Le jour où ils ont fait tchouba, tu as l'impression qu'ils sont morts. Pas du tout. À partir du moment où tu fais tchouba, tu dois avoir la simcha sur ton visage de plus en plus. Tu dois rayonner. Si tu as fait tchouba et tu es devenu comme un mort où tu ne peux plus rien faire, les gens ne peuvent même plus te parler. C'est exactement, malheureusement ça fait mal, hein, c'est exactement la pendaison de Mordechai en haut, loin, je ne suis plus avec vous, moi, je ne suis plus avec les hommes et les femmes, laissez-moi, je suis dans un autre monde. C'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Nous, on doit pendre Aman là-bas, dans la même hauteur. C'est-à-dire, reste là-bas, dans le Olam Abba, et ne descends pas dans ce Olam Hazeh, ne te manifeste pas, ne te cristallise pas. Reste en forme d'énergie, de potentiel de mal. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé le mal. Quel est le verset qui dit que Dieu a créé le mal? Borera. C'est écrit. Ani Hashem, Osei Kol Elle. C'est moi, Dieu, qui ai créé le mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire création du mal? En français, on ne comprend rien. C'est normal, c'est en français. En hébreu, bria, c'est un potentiel. Vous avez quatre mondes. Atzilut, bria, yetzira et asiya. Quand on dit que Dieu a créé le mal, quand la Torah dit que Dieu a créé le mal, elle dit qu'il a créé le potentiel du mal. Donc vous êtes dans le olam à bria. En bas de bria, il y a le olam à yetzira. Si tu amène le potentiel mal dans un monde plus bas, c'est ce qu'on appelle le Yetzer, Yetzer Hara. C'est-à-dire le façonnage du potentiel du mal que tu as manifesté maintenant dans le réel. Mais Dieu n'a pas créé un mal réel. Il a créé une possibilité de mal, comme j'ai dit au début du cours, une possibilité de refuser. Si tu n'as pas cette possibilité, tu n'as pas de vrai choix. Mais la possibilité de refuser Dieu ne la laisse pas. Laisse-la dans la possibilité, ne l'amène pas dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de la Megillah. C'est Haman qui est pendu à 50 coudées. Donc on l'a laissé dans ce Olam Abba. Et tous ceux qui ressemblent à Haman, nous avons une mitzvah de les aider à monter dans le Olam Abba. C'est une mitzvah moussarite. C'est le vrai moussard, c'est la vraie éthique juive, c'est la vraie morale. Okay? Ça nous fait aujourd'hui sourire parce qu'on est tellement loin de cette compréhension très simple. Okay? Et on doit tout le temps se justifier. Mais ça fait partie de notre visage Israël qui lui aussi a ses qualités. Il faut juste ne pas tomber dans les erreurs. À un moment donné, ça suffit. Vous savez qu'il y a une histoire un peu sympathique. Vous avez envie d'une histoire? C'est toujours les mêmes histoires. Il y a trois personnes, il y a un Français, un Anglais et un Israélien. Mais ils sont dans la jungle. Ils ont été attrapés par des cannibales. Et ils sont en train de fabriquer la casserole, la fameuse casserole. Ils sont en train de les faire bouillir tout doucement. Et l'Israélien dit, dans chaque histoire, il y a une demande, on peut chacun dire un petit souhait, quelque chose, non, dans chaque histoire. Allez, d'accord, il fait le souhait. Alors, il va chez l'anglais, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir le visage de la reine une dernière fois. Et mourir. Alors on lui apporte la photo de la reine mère. Il dit, ah. Et il meurt. Il meurt pas, il va rentrer dans la casserole, on attend d'abord les autres. Le Français, qu'est-ce que tu veux? Je veux boire un bon verre de vin de mon pays. Pas de problème, on va lui chercher un verre de vin. Il boit. Voir pas Paris, comment dire, voir machin et mourir. Non, Rachou. On vient chez l'Israélien, il dit, qu'est-ce que c'est ton souhait, toi? Il dit, je veux que le chef du village, il vienne me donner un coup de pied. Là où vous pensez.
Mais ça ne se fait pas. C'est mon souhait, vous voulez, j'appelais un souhait. Le chef du village, il vient, il lui donne un coup de pied, et l'Israélien enlève toutes ses chaînes, sort une mitraillette et massacre tout le village. Alors les deux autres, le français et l'anglais, il dit, mais si tu es aussi fort, mais pourquoi tu n'as pas fait ça au début? Il dit, je veux jamais qu'on dise que c'est moi qui ai commencé. Ça, c'est l'Israélien. On attend, on reçoit, et après, quand on réplique, c'est fini. Et tout le monde dit, mais d'où il a sorti toutes ces armes, machin.
Allez,
ça veut dire, l'Israélien n'aime pas être... C'est le guidou, c'est un nitralité. J'ai fait une page, j'en ai 8. Mais c'est pas grave. Et voilà, ça fait partie des vêtements, tout doucement. Et on doit rigoler à pourri. Hein. Et comme c'est une fête éternelle, on a le temps. L'expression la plus importante, ma... L'expression la plus importante, donc, c'est l'habillage. Est-ce que vous voyez à Purim une expression de cet habillage? À part les déguisements, ça c'est le plus classique. Mais nous avons des habillages un petit peu plus subtils, mais qui sont des habillages aussi. Par exemple, la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est prendre, en fait, la parole divine, la mettre dans un plat, et absorber. Et d'ailleurs, en hébreu, vous savez que les deux premières lettres du nom de Dieu, c'est le Yud et le He. Nous dit le Harizal, qu'est-ce que c'est Achila? C'est Achal Yud He. C'est ça, manger. C'est-à-dire que quand tu manges, en réalité, tu ne manges pas de la matière. Tu manges l'énergie qui se cache à l'intérieur de cette matière. La preuve, c'est que, heureusement, qu'on ne mange pas de la matière, sinon on aurait été tous, chacun de nous, un bateau. Okay? 70 tonnes, au moins. À la fin de la vie. Ça veut dire que nous avons la vie par rapport à ce qu'on appelle Motsa Pi Hashem. Ki lo al lechem levado yichieh ha'adam, ki al kol Motsa Pi Hashem yichieh ha'adam, dit le verset. L'homme ne mange pas de la matière, nourriture, mais l'énergie qui se cache dans le vêtement matière, nourriture. Moralité, nous mangeons. Et quand nous mangeons, nous faisons un lien pour coller notre âme à notre corps. Vous savez que c'est ça le secret de la nourriture. C'est pour ne pas laisser l'âme partir. D'ailleurs, si tu jeûnes quelques jours, elle s'en va. Et donc, quelle est la matrice de toute la nourriture? Comment on l'appelle en hébreu? C'est sur quoi on fait la bracha quand on mange? Sur le pain. Lechem, qui veut dire en hébreu?
La guerre.
Soudé, les alchim. Ça veut dire que le pain, c'est celui qui soude l'âme au corps. Et donc, en mangeant, on absorbe l'énergie qui se cache dans l'univers en ce jour de Pourim, par exemple. Et c'est pour ça qu'en hébreu, c'est très intéressant. Comment on appelle la Seouda de Pourim? Seouda de Pourim. Comment on appelle la Seouda de Shabbat? C'est Oudat Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, j'ai dit quelque chose qui est faux. J'ai dit le repas de Shabbat. Non. Je mange Shabbat. Je mange Pourim. C'est différent. C'est-à-dire que quand je suis à table dans mon michté de Pourim, je ne fais pas une fête du jour de Pourim. Je mange, j'absorbe l'énergie tout entière qui s'appelle Pourim. Je l'absorbe à l'intérieur, j'intègre. Ça change tout. Je bois shata yudke shtia. Achila, achal yudke. Je mange et je bois des énergies de la journée. Je mange l'énergie elle-même. Ça veut dire que Dieu, la lumière divine, se cache dans ce vêtement, ce qu'on appelle motza pi hachem. Et ce vêtement qui s'appelle nourriture maintenant, il m'aide à, encore une fois, souder encore plus mon corps et mon âme. Ce que Amalek veut, c'est pareil. Donc je dois me souder de plus en plus. Donc quelle est la guérison à Pourim? Quelle est la guerre? Manger. Celui qui ne fait pas la Seouda de Pourim, Il peut être joyeux, mais il n'a pas fait encore la véritable mitzvah. Il faut qu'il fasse la seouda. Ça se termine par une seouda. Tant que tu n'as pas amené une seouda dans ta vie, tu n'as pas d'aide. D'ailleurs, le mot seouda veut dire aide. Mas'oud. Sa'ad. Lishkat sa'ad. Donc seouda veut dire aide, ne veut pas dire un repas. Vous comprenez combien c'est important d'étudier l'hébreu ? Chaque mot est une clé. Le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, n'étudiait que les mots et les lettres. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. D'ailleurs, ça s'appelle Ulpan, qui vient de la racine, et Alper Chochma. C'est la capacité à recevoir la sagesse. Quel Alouf. Aloufo shel Olam. Ulpan, ça vient du mot Alouf.
Ma.
Il faut faire de temps en temps des hashlamot. Moi, je fais chaque semaine un ulpan. Je rigole pas. Tous les mots, toutes les études, tous les livres que j'étudie pour préparer les cours et tout le reste, je n'arrête pas au mot. Je vais scruter le mot jusqu'à ce que je le déshabille complètement et je le réhabille. Sinon, je ne peux pas comprendre le sens des choses. C'est ça le secret de la langue hébraïque et des cours de Torah. C'est tout simplement de disséquer tous les mots. Sinon, tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas, tu vas continuer à traduire en français, etc. Maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans quelque chose de différent, dans le peu de temps qui nous reste. Ça ne suffit pas d'avoir du temps. J'ai un temps qui s'appelle Pourim. Un temps dans l'année qui arrive, il est dans une date précise, Pourim. Tant que je n'ai pas absorbé, vous avez compris, ce Pourim, je l'ai intégré, il n'est pas encore véritablement en moi. Mais pour intégrer du temps dans un homme, c'est difficile. Comment je peux marier un temps et un homme ? Je peux marier un temps avec un autre temps. Un homme avec un autre homme, c'est-à-dire homme-femme, humain. Mais comment je peux intégrer un homme dans un temps ? Ou un temps dans un homme ? Le mariage paraît impossible. Nous disent les Chachamim, il faut d'abord donner au temps le nom de quelqu'un. La Gemara dit par exemple que Shabbat n'est pas seulement un temps, il est aussi le nom d'un Talmid Chacham. Si tu vois un homme qui est sage dans la Torah, tu dois l'appeler Shabbat. Exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il rentrait à l'Av HaShalom dans la Yeshiva, les élèves disaient « Shabbat arrive », alors qu'il s'appelle Shimon. On disait « Shabbat Ba'a ». Et quand il rentrait, tout le monde lui disait « Shabbat Shalom ». Même si c'était un dimanche ou un lundi. Parce que le Shabbat est arrivé. Donc on a donné au Shabbat le nom d'un être. C'est exactement ce qu'il faut faire pour chaque fête. Chaque fête a le nom d'un être. Aussi. Tisha B'Av, c'est un grand jour. C'est le plus grand jour de l'année. C'est le jour de la naissance du Mashiach. Nous, aujourd'hui, on ne prend que le verre à moitié vide, comme d'habitude. Mais vous savez qu'en hébreu, Ked Chacham, c'est les initiales. Kos Chatzi Melea. C'est de voir le verre à moitié plein.
C'est géant.
Okay. Ça veut dire qu'il faut être intelligent et savoir voir les choses. Alors, lorsqu'on rentre à l'intérieur du sujet, on va faire un petit jeu maintenant, et on va voir comment se marie le temps avec des personnages. Qu'est-ce que c'est Moed ? En hébreu, Moadim. On dit Moadim le Simcha, Hadgim, Uzmanim le Sassor. Qu'est-ce que ça veut dire Moadim ? Mais c'est Moed.
Rendez-vous.
Rendez-vous. Va'ad. It va'adout. Donc, Pgisha. Moed égale Pgisha. Rendez-vous. Donc, il va falloir que je rencontre dans le rendez-vous avec Dieu en ce temps précis, peu importe quel temps, avec le tzaddik ou le père qui se cache à l'intérieur de ce jour-là. Le Rav Manitou, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, nous a laissé un enseignement très important qu'il a fait passer à ses élèves. J'ai entendu du Rav Cherki, Shlita. Aussi, tous ces enseignements qui passaient, où il a développé un thème qui est extrêmement important, qui s'appelle la Torah du Père et la Torah du Maître. Torah ha-Rav et Torah ha-Av. Extraordinaire. Qui précède Torah ha-Av, la Torah des Pères. Puisque Abraham, Yitzhak, Yaakov s'appellent Avot, et ils étaient avant Moshe Rabbeinu, Rav, Rabbeinu. Donc la Torah du Père précède la Torah du Maître. Torah ha'av, kodem et le Torah ha'av. Donc c'est pour ça qu'on dit Derech Eretz, Kadma, la Torah. Derech Eretz, la fabrication de nos mesures, qu'on appelle Derech Eretz, conduis-toi bien, ou le chemin de la terre, dans le sens le plus simple, précède la Torah. Viens en Israël, après on s'arrange. Ne commence pas à me faire des comptes mathématiques. Oui, je vais perdre ma Torah si je vais là-bas. Tu comprends, j'ai un petit supermarché en bas de la maison. Arrêtez avec cette bêtise. C'est tellement grave qu'on a déjà perdu 6 millions de juifs qui sont morts tranquillement. Après la Shoah, pas pendant la Shoah. En plus de la Shoah. 6 dans la Shoah, plus 6. Tranquille. Par disparition. Quelle assimilation, tranquillement. Parce que beaucoup ne voulaient pas venir. Comme la fameuse dame que j'ai rencontrée il y a quelques mois en France, et je lui ai dit, alors vous préparez votre alia. Elle m'a dit, non, on attend que la petite finisse les études à l'université. J'ai dit, quel âge est-elle? Elle m'a dit, 3 mois. C'est mis sur c'est pour on ne sait pas s'il faut pleurer ou rire. Chaque fête donc a un homme dominant. Vous avez donc la Torah écrite et la Torah orale. Je vais aller un petit peu vite. La Torah écrite correspond au Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. La Torah orale correspond au maître. Donc il y a une Torah qui est divine, où les fêtes sont fabriquées, et il y a des fêtes, entre guillemets, inventées par l'homme. Il y a des fêtes inventées par l'homme? Purim, Hanouka, Yom Ha'atzmaout, Yom Yerushalayim, d'où c'est sorti tous ces trucs-là? Chaque fois qu'il y a un truc, tu m'inventes une fête? On a le droit d'inventer des fêtes comme ça? Il y a toute une Gemara, il faut l'étudier le jour du Yom Ha'atzmaout. Okay? On a le droit, mais dans certaines conditions. Ne vous inquiétez pas, Yom Ha'atzmaut est un vrai jour de fête qui va rester du temps messianique. D'ailleurs, c'est le début des temps messianiques. Même pour ceux qui ne reconnaissent pas pour l'instant. C'est dommage. La différence, elle est seulement si c'est Dieu qui a fixé ou si c'est l'homme qui a fixé. Par exemple, le Shabbat, on va le nommer tout de suite, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le Shabbat. Pessah correspond à qui? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est Pessah?
Chérout.
C'est Chérout. Donc c'est le messianisme qui commence. Donc Mashiach ben Yosef. Et c'est pour ça que mon cher Abelou, qu'est-ce qu'il fait pour sortir d'Égypte? Il va chercher les ossements de Yosef. Alors, en français, c'est que des ossements. En hébreu, c'est atzmout, c'est l'essence. Pas pareil. Il va chercher l'essence Yosef, l'énergie Yosef, pour sortir d'Égypte. Shavuot, c'est qui? Mais non. Qui donne la Torah? Qui on a donné la Torah? Moshe, là c'est Moshe. Essayez de revenir. Je vous ai décalé d'un, vous allez tout décaler. Revenez. Moshe Rabbeinu. C'est lui qui reçoit. Moshe Kibel Torah Misinai. Soukot, c'est qui? Les nuées. Aaron, il y a fait Meod. Aaron à Kohen, il y a les Korbanot pendant Chag HaSoukot, ce qui correspond à Aaron qui, lui, est responsable du Misbéa, les nuées et ainsi de suite. Et il y a les Yamim Noraim, qu'on appelle Yom Kippourim, Rosh Hashanah, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est... Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On décrète que Dieu est le roi. Donc, qui c'est?
David.
La royauté. Donc, en moralité, Shabbat, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Pesach, Yosef, Shavuot, Moshe Rabbeinu, et Sukkot, Aaron, et les Yamim Noraim, David Amelech. Alors, il y a quatre fêtes. D'accord? Je viens de citer quatre fêtes, c'est-à-dire Pesach, Shavuot, Sukkot et Yamim Noraim. Correspondant à ces quatre fêtes, il faut une continuité. Ça, c'était la Torah écrite. Dans la Torah orale, combien de fêtes il va y avoir? Quatre, la même chose. Quelles sont les quatre fêtes qui vont être la suite? Chanukka, Pourim, Yom HaAtzmaout, Yom Yerushalayim. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, il y a quelque chose d'extraordinaire. On nous dit que toutes les fêtes de l'année correspondent aux sept jours de Pessah. Et par un alphabet inversé, nous avons une correspondance. Par exemple, le premier jour de Pessah, Aleph va correspondre à la lettre Taf. Parce que dans l'alphabet, la première lettre correspond à la dernière. Donc, Aleph Taf, qu'est-ce que c'est Taf? Tisha B'Av. Le jour où le premier jour de Pessah tombe, si c'est un dimanche, Tisha B'Av de la même année va tomber un dimanche. Et vous avancez comme ça, tous les jours, il y a une correspondance. Et celui qui a écrit là-bas, il arrive au septième jour de Pessah, et il dit, ça correspond à la lettre Aïn, mais je n'ai pas encore trouvé le jour. C'était Asmaout, mais ça n'était pas encore. Extraordinaire quand même. Un petit peu plus impressionnant. Les kabbalistes, les élèves du Gaon de Vilna nous disent, vous voulez savoir quand est-ce que la Géoula va commencer? Exactement quand vous multiplierez par deux le temps depuis la création du monde jusqu'au roi David. C'est-à-dire que si je prends le temps depuis la création, c'est simple, jusqu'au roi David, on compte combien d'années, multiplié par deux. D'après vous, combien ça fait? 5708. Et c'est extraordinaire quand même. C'est la création de l'État d'Israël. Okay. Donc 5708 divisé par 2, c'est exactement le temps où David Amelech est apparu dans le monde.
Oui, mais pourquoi pas 2?
Hein?
Pourquoi 2?
Mais parce que justement, comme David Amelech, c'est lui. Oui. Je vais vous répondre à votre question. Vous avez la matrice de toute la création du monde qui est dans le système Adam. C'est le système adamique. Okay? Adam s'écrit Aleph Dalet Mem. Nous disent les Chachamim. Vous voyez qu'il y a ici deux espaces, parce qu'il y a trois lettres. Le temps qui va séparer Adam, Aleph, de David, Dalet, va être le temps qui va séparer David de même Mashiach. D'accord? Moralité, nous avons ici quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas se sauver de la réalité, elle est là. Une correspondance. Hanouka, qui est l'acteur principal? Les Hashmonaïm, donc, les Kohanim. Pourim, qui est l'acteur principal? C'est maintenant seulement que commence le cours, mais je le vois là et il faut que je l'arrête. Qui est l'acteur principal? Non. Non. Non.
Amen.
Non.
Amen.
Non.
Non. Hachem caché.
Melech.
Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est l'acteur principal de toute l'histoire de Pourri. D'ailleurs, si vous étudiez un petit peu plus en profondeur dans la Torah, les kabbalistes nous disent que le jour de Pourim apparaît à une lumière qui s'appelle Yesod de Abba Sheover Benukba Malchut. Je vous explique. C'est l'énergie de Moshe Rabbeinu qui vient de ce secret-là. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Peu importe. C'est l'acteur principal. D'ailleurs, on va laisser un petit peu les autres fêtes. On va s'occuper de ça, sinon je ne vais pas... C'est beaucoup, beaucoup d'informations. C'est énorme. Énorme. On ne sait même pas. Je vous jure que quand j'ai commencé à écrire le cours, j'avais Bliya Inara 20 dossiers comme ça, à peu près de hauteur, comme ça, que j'ai écrit depuis des années, et je ne savais plus par où aller chercher pour commencer à écrire le cours, tellement il y en a. Et c'est une goutte dans l'océan. Et je disais à ma femme, je ne sais même pas par où je vais encore pendre un chiot maintenant. Elle me dit, mais il y a... Je lui dis, ouais, mais c'est trop. C'est énorme. Et tu écris, tu es obligé d'arrêter, quoi. Tu es obligé de couper à un moment donné. C'est énorme ce qu'il y a, énorme. Baruch Hashem, on a encore beaucoup d'années avec des pourris. C'est la fête. Moshe Rabbeinu, il est très 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 caché. D'ailleurs, la Megillat Esther, elle n'a rien d'autre à faire que de nous poser la question dans la Megillat Esther, dans la Gemara Megillah, elle va poser la question. Moshe Minatora Minai. Écoutez bien la question de la Gemara. Moshe, où est-ce qu'on l'a vu dans la Torah? Moi, je comprends rien. Dans chaque page, il y a 10 000 fois le mot Moshe. Pourquoi la Gemara pose la question? Tu vois pas qu'il y a Moshe dans la Torah? C'est quoi cette question de la Gemara? Moshe mina Torah minai. Où est-ce qu'on a déjà vu Moshe dans la Torah? Tu te rappelles, toi, dans un verset? Attends, je ne me rappelle pas. Et la Gemara va répondre. On l'a vu à Bereshit, ça veut dire Moshe n'existe pas encore. Tout le livre de Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, est rempli des tonnes de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara pose la question, d'où on voit Moshe dans la Megillat Esther, dans la Torah? Pas dans la Megillat, dans la Torah. Et elle répond à quoi? Un verset où il n'y a même pas marqué Moshe. Il dit, j'ai trouvé, je sais où il est caché, Moshe, dans la Torah. Dans le livre de Bereshit, pendant le déluge. Un verset, aucun rapport. Même si je vous le dis, et si je dis à l'israélien, il ne comprend rien. Beshagam, hu basar, ve'ayu shana, me'a ve'esrim shana. Beshagam, c'est Moshe. Beshagam. Beshagam, hu basar, Beshagam. Vous avez entendu parler de ce nom-là, Beshagam? C'est le nom de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, c'est lui, c'est Moshe. Beshagam. La valeur numérique de Beshagam, c'est la valeur numérique de Moshe. Et alors, on est obligé de faire comme ça? Il y a marqué Moshe tout simple, partout. Pourquoi il faut que j'aille chercher un endroit où il y a marqué Beshegam? Qui veut dire d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Que lui aussi, Beshegam, ou Bassa. Lui aussi, c'est un homme de chair, comme tout le monde. Ve'ayu yamav me'avesrim shana. Il vivra 120 ans. Combien il a vécu? 120 ans. Oula, quelle prise de tête. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Moshe là-bas dans cette Megillat Esther? Et la suite, c'est quoi? Esther mina Torah minaïn. Où est-ce qu'on a vu Esther dans la Torah? Haman mina Torah minaïn. Où est-ce qu'on a vu Haman dans la Torah? Mordechai mina Torah minaïn. Où est-ce qu'on a vu Mordechai dans la Torah? Et la Gemara. Mais eux, je peux me poser la question parce qu'ils ne sont pas marqués dans la Torah. Mais Moshe, il est marqué dans la Torah. Pourquoi tu vas me chercher quelque chose qui est caché? Parce que dans chaque génération, il existe un libérateur. Et il faut le chercher parce qu'il est caché. Je ne vais pas chercher le Moshe dévoilé. Je vais chercher le Moshe qui est caché. Et Moshe, où est-ce qu'on est allé chercher ce verset? Dans le déluge. Alors, les Chachamim posent la question, pendant le déluge, où était-il le libérateur d'Israël? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il était? Dans l'eau. Eh oui. Il y a marqué qu'il était marchoui. C'est-à-dire, il était caché, il ne pouvait pas se dévoiler. Alors, un petit peu plus tard, la fille du pharaon, elle va le trouver de l'eau. Kiminamaim Meshitiou. Maintenant, vous comprenez quelle eau? De quelle eau elle a sorti la fille du pharaon? De l'eau du déluge qui s'est retrouvée en Égypte, dans le Nil. Ça veut dire que le Nil, c'est une suite de l'eau du déluge. Je ne peux pas rentrer parce que dans la Kabbalah, il y a un grand secret. Pourquoi? Et une fois que Moshe est sorti de l'eau maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire? À son tour, il va rentrer dans l'arche. Moshe, Bateva. Alors que c'était Noah qui était dans la Teva. Maintenant, c'est Moshe qui va rentrer dans la Teva. Extraordinaire. Et Moshe qui était dans l'eau, le pauvre, dans la première génération du déluge, maintenant, enfin, il a réussi lui aussi à rentrer dans la Teva, grâce à Dieu. Et Moshe Rabbeinu, il apparaît maintenant dans l'histoire de Pourim. Et c'est pour ça que la Gemara, elle pose cette question. Et je vais terminer le cours avec ça. Pourim, c'est la capacité du peuple d'Israël, de tous les juifs, d'intégrer la puissance de Moshe Rabbeinu et de la manger. On va devenir comme des Moshe en potentiel. C'est-à-dire la fête de Pourim, c'est la fête qui appartient à Moshe, mais maintenant elle va rentrer dans l'ensemble des juifs, qu'on appelle Yehudim, Dafka. C'est pour ça que je dis des juifs. Correspondance, ma.
Comment on voit qu'il y a Moshe dans
le... Il y a fait. Ah, oui. On arrive. Oui. Il y a marqué Moshe Kibel Torah Misinaï. Esther, comme elle ne savait pas écrire l'hébreu, non, je rigole. Elle fait exprès. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin de la Megillah? Ve Kibel a Yehudim Alehem. Le Zohar Akadosh, il dit, et on ne sait plus parler l'hébreu, c'est fini? Qu'est-ce qui se passe, Esther? Ça manquait un coup? Vekiblou et Yehudim, qu'est-ce que ça veut dire Vekibel? Dit le Zohar, écoutez bien l'expression du Zohar. Moshe iou ha Yehudim, klala de Yehuda e. Moshe est devenu maintenant l'ensemble de tous les Juifs. Moshe a reçu la Torah dans le Sinaï. Tous les Juifs maintenant reçoivent la Torah de cet au singulier, c'est-à-dire le Moshe, il est là maintenant. Donc il a reçu la Torah. Et il va être caché. Il va se diviser en deux, ce Moïse. Une partie va se cacher en Esther et l'autre partie dans le Mordechai. Où est-ce qu'elle a grandi, Esther? Non, dans la maison de Ahasvéros. Où est-ce qu'il a grandi, Moshe? Dans la maison de Pharaon. Esther, est-ce qu'elle disait qu'elle était Israël?
Non.
En Esther magedet ama umoladeta. Moshe Rabbeinu. On ne savait pas encore qu'il était. D'ailleurs, quand il sort, va Yetse Moshe et Lechav, il y a un problème chez les commentateurs. Ils nous disent Eze Echav, qui sont les Achim de Moshe? Alors tenez-vous bien, certains disent, mais cela, c'est les enfants d'Israël. Et d'autres disent, non, c'est les Égyptiens. C'est-à-dire, Moshe, il est dans un dilemme, qui sont mes vrais frères? Et il va falloir qu'il prenne une décision. Et ainsi de suite, je ne peux pas tout développer. Juste, je vais... Ken, c'est énorme. On passe de la névoie à la chokhma dans cette période du temps. Il faut des années et des années. Regardez, j'ai tout enlevé. Voilà. Je termine avec quelque chose qui me paraît le plus important. Pourquoi Moshe n'est pas dévoilé clairement? Parce que Dieu n'est pas dévoilé clairement. Et Dieu n'est pas dévoilé clairement parce qu'il a choisi de se cacher. La Megillat Esther cache Dieu. Donc elle cache tout. Tout est caché. L'action divine ne se voit pas. Tu as l'apparence que c'est un ensemble de trucs qui font en sorte que, à la fin, tu arrives à. Pourquoi Dieu n'apparaît pas? Il apparaît en filigrane dans des initiales. Yavo Hamelech veHaman Hayom. Extraordinaire. Dieu se cache chez Achashverosh et Haman. C'est le seul endroit où tu as trouvé Dieu. C'est pas très sympathique. Ça aussi, c'est un autre secret. Moshe Rabbeinu vient nous enseigner, et la Megillah vient nous enseigner ce qu'elle dit dans son nom, Megillat Esther, dévoile les secrets. Le Zohar nous dit que la fin des temps, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Et c'est pour ça que la fin des temps est liée automatiquement à Pourim. C'est une Pourim, c'est une fête qui va aller être à la fin des temps. Elle correspond à la fin des temps. C'est ça le moule de la fin des temps, c'est la fête de Pourim. La preuve, c'est la seule qui va rester, tous les autres vont disparaître. Pourquoi? Parce que Dieu va choisir ce système-là, Pourim. Moralité, une Torah cachée qu'il va falloir que tu décodes. Moralité, notre travail aujourd'hui dans cette génération, c'est de décoder la Torah. Un tout petit peu, comme on vient de faire avec beaucoup d'humilité ce soir. C'est très très peu, vraiment. Et la Torah des secrets, c'est la Torah d'Eretz Israël. C'est pas seulement d'ouvrir le Zohar et de lire dedans ce qui a marqué. C'est de comprendre que la Torah, c'est la Torah du clan et pas la Torah du prat. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. C'est la Torah de l'ensemble de l'univers Israël, de la Neshama Israël, et pas seulement des individus. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël, la Torah du Zohar. Comme il est écrit dans Pirkei Avot, Chachamim, Izaharu bedivrechem. Vous, les sages, faites très attention à ce que vous dites. Non. Izaharu bedivrechem, rentrez du Zohar dans vos paroles. quand vous rentrerez du Zohar dans vos paroles et que vous allez le mettre au niveau de la portée de l'homme, comme a fait le Rav Kook Zatzal, alors on est en train de s'approcher de la Géoula. Bekarov bimhera b'yamenu amen.